Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Comme à l'accoutumée, démarrons cette chronique numéro 28 par les minutes remue-ménage. Le temps d'évoquer quelques-uns de nos contemporains qui ont fait de la marche un véritable sacerdoce. Aujourd'hui, Guillaume Touroude, une figure notable de la littérature française contemporaine, bien que son nom ne soit pas aussi connu que certains autres écrivains. Il a contribué tout de même aux lettres françaises à travers des publications d'essais, de romans et même de poésie. Son œuvre aborde souvent des thèmes tels que la condition humaine, les relations interpersonnelles et la recherche de sens dans un monde moderne complexe. Les écrits de Touroude se distinguent par un style introspectif riche en réflexions philosophiques et en analyses psychologiques.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Je continue avec Guillaume Touroude donc et je vais évoquer plus particulièrement un de ses livres « Mémoire d'un voyageur ». Dans « Mémoire d'un voyageur », l'auteur fait état d'une randonnée particulière qui se distingue par son impact émotionnel et sa portée symbolique. Touroude décrit dans ce livre une expérience de randonnée à travers des paysages montagneux où la nature devient à la fois un cadre et un personnage à part entière. Par exemple, la montée dans les montagnes symbolise le parcours intérieur de l'auteur. Chaque pas est une métaphore de sa quête de soi et de ses luttes personnelles. Touroude utilise les paysages pour illustrer ses émotions, passant de la solitude des hauteurs à la contemplation des horizons infinis. Enfin, au cours de cette randonnée, il croise d'autres randonneurs, rencontrant ainsi des personnages colorés qui enrichissent son expérience. Ces interactions, fugaces certes, deviennent des instants de partage, reliant des inconnus par leurs histoires respectives. Enfin, il y a des défis physiques de la randonnée, comme les terrains accidentés et les conditions climatiques changeantes qui sont autant d'épreuves qui poussent Touroude à réfléchir sur sa persévérance et ses motivations. Il associe souvent ses difficultés à des métaphores de la vie soulignant que chaque obstacle sur le chemin est une leçon à apprendre. Et puis, il y a la sérénité. À mesure qu'il atteint des points de vue panoramiques, Touroude décrit des moments de silence et de paix intérieure. Ces instants deviennent des occasions de méditation sur le passage du temps et l'importance de profiter du moment présent. Ce récit est donc à découvrir car sa randonnée est plus qu'une simple activité physique. Elle représente un voyage intérieur profond, illustrant comment l'acte de marcher en pleine nature peut inspirer des réflexions sur la vie, l'existence et la condition humaine.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez Je marche, donc je suis.
Après cette randonnée épique, une coupure musicale pour faire une promenade avec ce titre de Passion Pit, Take a Walk. Take a Walk de Passion Pit aborde des thèmes tels que les défis de la vie adulte, la lutte pour l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, ainsi que les attentes sociétales. La chanson évoque une quête de sens dans un monde souvent difficile et stressant. Avec un ton optimiste et entraînant, elle encourage à avancer malgré les obstacles et à trouver des moments de liberté. La mélodie entraînante contraste avec les paroles qui traitent de la réalité. Radio FM Plus, 91 MHz, Robert Amalric, Je marche donc je suis, deuxième partie. Aujourd'hui, je reçois un familier de l'émission, Guy Matteo, et on va poursuivre nos évocations sur les mythiques chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Guy Matteo, je vous le rappelle, est le président de l'association sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en région Languedoc-Roussillon. Le siège est à Saint-Guilhem-le-Désert et il assure une permanence mensuelle tous les mercredis du mois, hors vacances scolaires à Latte. Bonjour Guy.
Bonjour Robert.
Donc nous allons poursuivre sur les routes de cette mythique, de ces mythiques randonnées, en évoquant un nouveau projet qui va voir le jour en 2027, mais qui se prépare déjà et qui met en avant une route qui n'est pas forcément très connue, peut-être pas la plus connue, qui historiquement était la plus pratiquée. Mais on va justement revenir un peu sur l'histoire.
Voilà. Dès le Xe siècle, quand les pèlerinages sont décrits par Aimery et Picot, il va décrire deux itinéraires précisément. Un qui part d'Arles, de Saint-Gilles, qui est le haut lieu de la chrétienté, et un autre qui part de Tours. Il décrira dans son préambule qu'il y a d'autres lieux, d'autres abbayes où on peut partir de France, c'est-à-dire le Puy-en-Velay, le Vézelay. Mais il décrit précisément les chemins de Saint-Gilles et les chemins de Tours. Donc tout le Moyen-Âge, le flot des pèlerins ont suivi ses conseils jusqu'à ce qu'en 1938, une historienne, Anne Veillard, refasse une traduction et décrive des itinéraires au départ du Puy-en-Velay et au départ du Vézelay. Donc c'est à partir du XXe siècle où ces chemins ont commencé à prendre de l'ampleur au détriment des nôtres qui étaient les plus utilisés.
Oui, parce qu'il faut dire qu'en fait, tous ces pèlerins, donc, notamment ceux qui venaient du nord, etc., descendaient la vallée du Rhône et passaient par Arles et ensuite par Saint-Gilles. Voilà. C'était la route la plus empruntée.
Voilà, c'est ça. C'était la vallée du Rhône, Arles, puisque c'était un port à Arles. Saint-Gilles, qui était le haut lieu de la chrétienté. Ensuite, de Saint-Gilles, ils faisaient Vauvert. On leur demandait de passer à Saint-Guillaume-le-Désert, d'aller voir les reliques de la Sainte-Croix, et ensuite de descendre à Saint-Tibéri, où il y avait les reliques de... je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, Tibère, me semble-t-il, je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'évêque fondateur d'Arles. Et il continuait sur la Via Domitia, c'était la voie romaine, c'était l'autoroute à cette époque-là. Il continuait sur la Via Domitia et vers le col de Panissard, c'est-à-dire au sud de Perpignan, pour passer les Pyrénées très facilement, puisque le col est à 230 mètres, me semble-t-il. Donc il passait très facilement vers la plaine de l'Èbre pour rejoindre Compostelle ensuite. Au XIIe siècle, quand Aimery de Picot décrit les itinéraires, il va faire passer par Saint-Gilles, Saint-Tibéri, voilà. Toulouse, jusqu'au Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Et donc, les voies du Puy étant bien saturées, notre fédération a décidé de mettre un coup de projecteur sur ces voies du Sud qui sont tombées en désuétude, qui ne sont plus trop utilisées et qui pourtant sont authentiques. En 2023, ça a été décidé. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est créé et qui a lancé une opération. Maintenant, nous sommes à un an de l'opération qui s'appelle Bourdon 2027. Bourdon étant le bâton
exactement
du pèlerin, voilà, qui permet aux pèlerins de marcher et de se défendre des fois, hein, quand même.
Ça pouvait éventuellement.
Ça a servi contre les animaux, mais des fois même contre les brigands, parce qu'il y en avait pas mal. Donc, les bourdons pèlerins, il y a trois bourdons qui vont donc partir de la frontière italienne et qui vont rejoindre les frontières espagnoles par deux voies principales qui sont la Via Domitia, de Montgenèvre jusqu'au col de Panissard. Ensuite, une voie qui passe par Menton et qui s'appelle la Via Aurelia. Donc, Menton, le long de la côte.
Il passe à Nice, Cannes et il continue
C'est ça. Voilà. Ici à Montpellier, on a la chance, on aura nos trois bourdons qui vont arriver le 15 avril à Montpellier. Deux vont partir vers Saint-Guillaume-le-Désert et Saint-Gervais. Et un troisième va partir le long du littoral vers Gigean, Metz, Saint-Tibéri, la voie historique, et rejoindre le col de Panissard. Un bourdon à Saint-Gervais bifurquera vers le sud en passant par l'abbaye de Foncode, qui avait également une histoire.
Voilà,
très, très chargée, et rejoindra la voie du Piémont pyrénéen à Capestan, c'est-à-dire Rieux-Minervois, Carcassonne. Voilà.
Et descend jusqu'à Perpignan, celle-ci.
Non, celle-ci, elle ne descend pas jusqu'à Perpignan. Elle continue par le chemin du Piémont pyrénéen et ça rejoint Lourdes. Hein.
Oui, voilà. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a en fait, les voies sont nombreuses. Je ne sais pas si toutes les voies mènent aux cieux, mais celles-ci sont nombreuses pour aller à Saint-Jacques. Et donc, il y a effectivement au moins actuellement de tracés et de pratiquer de toute façon au moins 4 ou 5 voies. Quoi.
Oui, dans notre région, oui. On a donc la voie Domitien qui part de Mont-Genèvre à celle-là intégralement.
Voilà, c'est la voie Domitien qui, elle, effectivement, allait vers l'Espagne, donc passe par Perpignan et plus loin. Voilà.
C'est ça. Ensuite, on a la voie du Piémont pyrénéen qui, elle, rejoint Lourdes, Oloron-Sainte-Marie et Saint-Jean-Pied-de-Port. Et on a la Via Tolosana qui, au départ de Montpellier, rejoint Toulouse, l'Escar.
En passant par Castres, oui, Castres, voilà, Auch et voilà. Effectivement.
Voilà, c'est la plus moderne.
Alors, de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi également les itinéraires, parce que les pèlerins partaient de chez eux, donc ils partaient de chez eux pour rejoindre une voie, la voie la plus proche.
Voilà, il y a une multitude d'itinéraires, hein, puisque le pèlerin ferme sa porte, part de chez lui et rejoint un itinéraire où il y a le plus d'infrastructures pour manger, dormir et abri.
Oui, parce qu'il faut penser au relais, quoi. On part, mais il faut bien faire des haltes, donc
c'est
il
ça,
faut
c'est
tout
ça,
prévoir
c'est ça,
au
c'est
départ.
Ça. Alors, sur ces itinéraires où il y a énormément de pèlerins, il faut savoir, au XVe siècle, il y a quand même 500 000 pèlerins qui arrivent à Compostelle, donc de toute l'Europe, c'est énorme. Donc ça va créer des traces, et on retrouve dans toutes les communes, on retrouve des traces de passage de pèlerins, voilà. Des chemins de pèlerins. Actuellement, la Fédération compte 80 000 km en Europe, de définir un petit peu comme on a la Via Domitia ici.
Ouais.
Hein, voilà.
Et alors, historiquement, ce que je trouve étonnant, personnellement, je n'avais pas connaissance, c'est l'importance de Saint-Tibéri, sur lequel il n'y a aujourd'hui que des vestiges, mais qui était à l'époque une étape importante.
Alors, Saint-Tibéri, depuis le XIIe siècle, est décrit dans le Codex Calixtinus qui est déposé à Saint-Jacques de Compostelle, et il fallait venir se recueillir sur le gisant de l'évêque qui a été fondateur d'Arles. Voilà. Et deux autres dont j'avoue oublier le nom.
Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée en dissuétude. Par un manque d'attractivité. Voilà.
De renouvellement. Dans l'Église, si on n'arrive pas à renouveler le miracle s'éteint. Donc il faut qu'il y ait un renouvellement continu.
Voilà, il faut s'accrocher à des réalités qui continuent à tenir, en émoi ou en attractivité, les différents pèlerins. Très bien. Donc, et Montpellier, quand même, bien qu'il ne soit pas initialement sur les chemins, mais il reste aujourd'hui quand même un lieu important de ce chemin.
C'est une aberration, hein. Montpellier n'apparaît pratiquement pas dans les tablettes, alors que on sait, on a des témoignages, on a des écrits de pèlerins qui s'y sont arrêtés. Et il y avait un trafic important, puisque Guy de Montpellier va créer un hôpital à l'entrée de Montpellier pour accueillir les pèlerins. On a Notre-Dame-des-Tables, qui était un haut lieu de change de monnaie, de blé, et les pèlerins échangeaient les titres à ce niveau-là. Donc on sait qu'il y avait un passage important, mais on ne voit pas trop apparaître dans les écrits. Voilà.
Oui, juste puisqu'on parle de Notre-Dame-des-Tables, moi la question que je me posais, c'est que les pèlerins partaient, mais je suppose avec une bourse pas trop chargée, parce qu'il y avait quand même des rencontres qui pouvaient être indésirables. Et donc, comment arrivait-il à avoir de l'argent au fil de ces périples qui étaient fort longs?
Voilà, il me semble que les Templiers ont commencé à mettre un système de... Comment on pourrait appeler ça? Des cartes bleues, là, d'échange.
De cartes de... Oui, c'était des lettres de crédit, en fait.
Des lettres de crédit. Et donc, les pèlerins savaient, tout le long du trajet qui avait été sécurisé par les Templiers, au départ, hein, Charlemagne, tout ça, on va sécuriser le... Avec les rois espagnols, ils vont sécuriser le chemin, un chemin qui est inventé par l'Espagne. Hein, et donc, les pèlerins, ils ont la certitude de pouvoir changer tout au long du chemin. Voilà.
Ouais.
Mais ça n'empêchait pas qu'ils se faisaient raccourcir...
Oui, mais parce que justement, le fait, ils ne pouvaient pas partir avec la somme souhaitable pour faire tout le périple. Donc, il fallait bien qu'il trouve des points d'appui où il pouvait récupérer de l'argent ou du moins...
Oui, d'un autre côté, peut-être, il y a une tradition, une obligation dans l'Église, c'est de... le chrétien a obligation d'offrir gîte et couvert envers le pèlerin. Donc le pèlerin, il sait qu'il a des gîtes et couverts sur tout le monde de la chrétienté qui est là. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Hein. On est association laïque, mais on me l'a présenté comme ça.
Oui, de façon à ce que ça ne représente pas des sommes colossales et justement des transports d'argent qui auraient pu provoquer des convoitises.
Il y a énormément de... On relate énormément de faits où des pèlerins se sont fait agresser et dépouiller. Les peines étaient très violentes. Hein. C'était la peine de mort si on détroussait un pèlerin. Voire même de se déguiser en pèlerin était passible de la peine de mort. Je crois que du côté de Oloron-Sainte-Marie, on a des écrits où des brigands s'étaient déguisés en pèlerins. Voilà. Ils ont été arrêtés et exécutés.
Oui, donc il y a toute une histoire, donc ça a évoqué, nous n'en sommes plus là tout à fait aujourd'hui, heureusement. Et donc ces fameuses routes, donc, en ce qui concerne Montpellier, qu'est-ce qu'il est prévu en fait par rapport à ces nouveaux itinéraires?
Alors, on est dans une période assez difficile hein, de... tourmenté là depuis la semaine dernière d'élections. On a eu contact avec
la précédente municipalité.
La précédente, je ne sais pas encore si c'est ça la précédente. On a parlé de clous à Montpellier qui ont disparu. Il y avait 300 clous qui avaient été installés à l'initiative de notre association en 2014, oui. qui partaient de la porte du Pilat Saint-Gély, qui faisaient la traversée de Montpellier en passant par Notre-Dame-des-Tables notamment. Ces clous ont plus ou moins disparu.
Plus ou moins volé, récupéré, en fait,
oui, peu importe. Oui, allez, on va dire qu'il y a eu des travaux. Voilà, et il y en a qui ont pris des souvenirs. Voilà. Et donc, ça devrait être rétabli. Et on attend d'avoir des contacts une fois que la tourmente des municipales sera passée pour voir ce que...
Avec la nouvelle équipe, pour voir de préparer et d'installer donc, voilà. Ces nouveaux itinéraires.
Voilà, on offre aux municipalités, on offre aux associations la couverture médiatique nationale, un petit peu à l'instar de la Flamme Olympique, puisqu'on se transmettra ces bourdons d'association en association et on essaiera d'amener le coup de projecteur sur nos voies du Sud pour dire ben, il y a autre chose. Nous sommes allés à Vancouver à l'Assemblée mondiale et les Américains ont découvert qu'il y avait d'autres chemins de Compostelle. Pour eux, il n'y en avait qu'un seul, c'était le Puy-en-Velay. Et puis, ils connaissaient Lourdes parce qu'il y a un aéroport à Lourdes et ils pouvaient se poser à Lourdes. Voilà.
Oui, parce qu'il faut dire que c'est vraiment international, quoi. C'est en fait, ça traverse la France, mais effectivement, ça concerne toute la chrétienté, en fait.
Absolument. Oui, toute la chrétienté. J'ai eu l'occasion de côtoyer des Vietnamiens, des Coréens, des Brésiliens. Voilà, c'est une aventure humaine qui est fantastique. C'est l'aventure humaine numéro un de notre siècle.
Voilà. Donc, Guy, on va dire que la prochaine étape, parce qu'il y a aussi, donc, tout ceci tourne autour de l'histoire, et donc vous faites référence et vous faites appel à des historiens pour, oui. Venir certifier vos propos, en quelque sorte.
Absolument, là, on a d'ailleurs une historienne qui a accepté d'être marraine de notre opération, c'est Adeline Rucoy. Elle est spécialiste du Moyen-Âge et notamment de tout ce qui touche à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc elle sera notre marraine et je pense qu'elle fera quelques conférences tout le long de ce passage du Bourdon. Enfin, on espère si elle n'est pas trop surchargée parce que elle est assez occupée.
Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, merci Guy pour toutes ces informations. Nous aurons l'occasion. On vient en principe une fois par mois, on fait le point sur tous ces événements, n'est-ce pas? Donc on aura l'occasion d'en revenir, de vous donner sans doute la date plus précise concernant cette conférence. Et donc notre séance touche à sa fin. Merci Guy. Radio FM+, donc 91 MHz, Robert Amalric. avec les soins de Yann à la technique. Pour retrouver nos émissions, allez sur notre site www.radiofmplus.org. Vous pourrez récupérer le podcast de cette émission et des précédentes, soit en allant directement dans le programme samedi 10h, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique « Ici et maintenant ». Je vous propose donc de terminer l'émission avec une chanson que Guy n'a pas choisie parce qu'on n'a pas trouvé, en fait, vous l'aurez la prochaine fois, le groupe qu'il souhaitait mettre en avant. Donc nous allons terminer dans l'air du temps avec le chant des pèlerins de Compostelle. Il est interprété par Jean-Claude Bénézé. Bye bye et à samedi prochain 10h.
Après jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Poultreia, Poultreia, Jesu Seia, Deus Adiomanos. Chemin de terre et chemin de foi, trois millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Poultreia, Poultreia, Jesu Seia, Deus Adiomanos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Poultreia, Poultreia, Jesu Seia, Deus Adiomanos. Poultreia, Jesu Seia, Deus Adiomanos.